Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Dans les bonus de la saison 3, je vous propose une thématique un peu différente avant de reprendre en septembre les témoignages. Le thème de ces 4 épisodes qui rythment juillet et août, ils ont fait de là où leur sexualité, leur métier. Mais avant ça, connaissez-vous Lelo ? En plus d'être le sponsor de cet épisode que je remercie grandement, Lelo est une marque suédoise de sextoys haut de gamme créée en 2003 et qui propose des jouets pour adultes design, raffinés et à la pointe de la technologie. Pour ce 3e et avant-dernier épisode estival, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Quentin Benz, manager France de Lelo. Dans cet entretien, Quentin raconte l'histoire de création de la marque, comment d'une envie de faire plaisir à une amie pour son anniversaire, trois ingénieurs ont créé cette marque unique qui propose aujourd'hui le meilleur de la haute technologie intime. Expert dans son domaine, Quentin explique comment évolue le marché du sextoys et nous avons fait un petit focus sur les sextoys masculins, les différentes offres que propose Lelo, et il vous guide même dans un potentiel souhait d'en essayer un. Une rencontre riche en informations et conseils pour cet avant-dernier épisode des bonus de cet été. Merci pour votre fidélité, et si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram. Lelo a très gentiment proposé de vous faire gagner en jeu concours deux de ses petits bijoux de technologie. Je vous laisse avec Quentin, à très bientôt. Je te pose la toute première question. Quentin, peux-tu te présenter ?
Alors déjà, je suis le manager France de Lelo depuis 6 ans. Je fête mes 6 ans dans 15 jours chez Lelo. Ça fait effectivement 6 ans que je m'occupe de tout le marché français. De tout le marché français et un petit peu la Belgique, mais c'est tout le marché français, tout ce qui se passe sur le marché français, je m'occupe de ça, et depuis quelques mois je suis aidé par Amandine pour cette partie-là.
Oui, Amandine qui nous a gentiment mis en relation et qui a organisé cette interview. Quentin, d'où toi tu viens, quel est un peu ton parcours pro?
Alors j'ai un parcours relativement sinueux, dirons-nous, puisque à la base, j'ai fait des études de vétérinaire, voilà, qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire, mais j'ai bifurqué sur d'autres sujets ensuite, l'informatique, le consulting. Et il y a 10 ans, en fait, je suis arrivé dans l'industrie adulte en rachetant un sex shop en ligne.
Ok.
Donc ce qui m'a permis de la première idée était d'abord d'avoir une aventure un peu entrepreneuriale. Et puis finalement, de toute façon, le sexe est quelque chose qui m'intéressait, donc j'avais envie finalement de mêler les deux. C'est comme ça que je suis arrivé d'abord dans l'industrie adulte, et puis la double casquette de connaissance de l'industrie adulte et finalement d'être en dehors, puisque à l'époque j'avais ce sex shop en ligne en même temps que j'étais consultant, a beaucoup plu à Lelo. Justement, ils avaient besoin de quelqu'un qui avait une ouverture sur le reste du monde et qui n'était pas focalisé uniquement sur les sex shops,
oui, etc. Il y avait cette polyvalence aussi sur la gestion de plusieurs domaines dans cette industrie-là, j'imagine.
Exactement. Finalement, mon parcours atypique était le meilleur à ce moment-là, en tout cas pour Lelo.
Ok. Justement, c'est quelle est l'histoire autour de Lelo ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont les valeurs ? Parce que donc c'est une marque suédoise.
Tout à fait. C'est une marque suédoise en fait qui a été créée en 2003. Trois amis qui avaient, alors au départ, au début pas du tout, enfin pas du tout l'intention de créer une marque de sextoy, pas du tout même l'intention d'avoir une aventure entrepreneuriale. C'était deux designers et un ingénieur qui travaillait chez Ericsson. Mm-hmm. Et c'est une occasion un petit peu particulière, puisqu'ils avaient envie de faire un cadeau d'anniversaire à une amie. Comme souvent, on se dit, oh, bah, tiens, ça serait marrant de faire un cadeau un peu rigolo, atypique, etc. Donc ils se sont tournés vers les sex shops pour trouver quelque chose de drôle. Mais en même temps, ils n'avaient pas envie d'avoir un truc trash ou d'avoir un truc complètement nul finalement. Ils voulaient un cadeau de qualité, sympathique, mais drôle et puis un peu sexy. Ils n'ont rien trouvé. C'était que du réaliste, des choses de mauvaise qualité. Puis c'était du latex, la matière qui, enfin ça se désagrège assez vite. Ça n'avait aucun intérêt. Alors, ils se sont dit, on va pas faire ça. Et puis un des trois, donc l'ingénieur a dit, mais pas de souci, on va le fabriquer, on va le faire pour elle, on va faire un truc comme on a imaginé, comme on a envie, comme on a décidé. Donc ils ont fabriqué un petit truc sympa dans un atelier. À l'époque chez Ericsson, ils avaient un labo, ils ont utilisé le labo d'Ericsson et ils ont fabriqué un petit sextoy rigolo, alors qui n'était pas forcément le meilleur du monde maintenant avec le recul, mais qui était fonctionnel, qui était joli, et encore aujourd'hui on peut le voir puisque c'est qui est devenu ensuite le premier produit de l'Elo. Okay. Incroyable. Ils se sont dit, ça a plu, le cadeau a plu. Les gens se sont dit, mais c'est super, où est-ce qu'on peut le trouver?
Ah, c'est génial. C'est super les histoires comme ça, ou d'un, on va dire d'un fun fact, ou en tout cas d'une histoire un peu perso vécue, créer comme ça une marque, un univers, des idées, des nouveaux produits. Enfin, je trouve que c'est toujours très fascinant de connaître un peu les racines de ces types de projets. C'est quoi les valeurs justement de l'Elo?
La première chose qu'on met en avant, c'est la beauté, ouais, le design.
L'esthétisme des produits, ouais, je suis d'accord avec toi.
L'esthétisme, voilà. On n'en est pas encore à dire que c'est des œuvres d'art, mais le but du jeu, en tout cas, c'est justement de se rapprocher de quelque chose dont, finalement, qu'on a envie de voir avant d'utiliser. Mais je pense que c'est une tendance qui n'est pas spécifique au milieu adulte, ni spécifique à l'Elo. Je pense que c'est une tendance globale.
Oui, d'une société qui a envie de beau et d'esthétisme, et je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que dans cet univers-là, comme tu le dis spécifiquement, c'est peut-être un peu moins maintenant qu'on est en 2021, mais les années précédentes, il y a 10-15 ans, c'était difficile de trouver des choses jolies. C'était souvent assez cash.
C'est pas tellement le réalisme, il fallait que ce soit efficace.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc l'efficace, c'était le réalisme. Aujourd'hui, on sait faire efficace, pas réaliste du tout.
Oui, carrément. Carrément. Donc tu parles d'esthétisme, mais encore?
Alors la techno aussi, c'est vrai qu'on a apporté, et d'autres marques aussi ont justement embrassé cette façon de faire les choses. C'est-à-dire que jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait aucune technologie dans le milieu adulte, enfin dans l'industrie des sextoys. Ça se résumait à une pompe qu'on gonflait à la main ou ce genre de choses. Donc là, on a introduit finalement une technologie. Et la dernière chose qui est venue assez tard, mais auquel on s'est converti parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est d'être éco-flânerie. Ouais. En fait. C'est d'abord venu d'une autre marque, en l'occurrence Intimina, avec les coupes menstruelles. Donc essayer d'avoir quelque chose de moins impactant pour l'environnement. Et ça a ensuite déteint sur l'Elo, sur la façon de produire les nouveaux produits qui sont recyclés depuis une bonne dizaine d'années. Là, on est en train de travailler sur des packagings entièrement en matière recyclée. Donc uniquement du carton recyclé, plus de plastique. Donc voilà, c'est plus une tendance de fond qu'un changement radical.
Oui, bien sûr. Mais c'est une sacrée perf, hein, surtout dans des univers comme ça, où c'est difficile de faire hyper attention à son impact écologique.
Mais le but du jeu, c'est pas tellement de dire aux consommateurs, vous n'avez pas d'impact. C'est juste de le faire sans qu'ils s'en rendent compte. Finalement, Il n'est pas nécessaire que les gens le sachent, il est nécessaire que ça se fasse.
Oui, tu as raison. Oui, oui, bah, faut éviter le greenwashing à tout prix. Hein. C'est sûr que ce qui est plus intéressant, c'est les actions et non les actions de com, juste pour dire on le fait. Quoi. Ce qui est tangible, c'est vraiment que ça existe. Ok, je comprends. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que ça, c'est moi, c'est une question que je me suis posée, je n'ai pas forcément trouvé les réponses. Comment on design des sex toys et comment on les pense, comment ils sont testés? Comment ça arrive l'idée d'un sex toys en réunion ou quand vous êtes chez Lelo?
Alors dans le cadre de Lelo, c'est assez particulier puisque tous les sex toys, sans exception, depuis quelques années maintenant, sont pensés, designés, conçus par une seule personne.
D'accord.
En l'occurrence, c'est Philippe Sédic, qui est un des fondateurs, enfin le seul fondateur qui reste aujourd'hui chez Lelo. Mmh. Et qui de toute façon a créé de A à Z l'ensemble des sextoys depuis 10 ans. Donc c'est lui qui est à la base de toutes les idées, de tous les produits existants. En revanche, il a quand même une équipe avec lui qui l'aide dans la partie ergonomie, dans la partie choix des différentes matières, qui apporte aussi, on va dire, qui a une veille technologique. Veille technologique pour savoir s'il n'y a pas peut-être nouvelles façons, nouvelles fonctionnalités, etc. Donc qui apporte quelques, on va dire, modifications sur l'idée première que peut avoir Philippe.
Oui, parce que ce qui est extraordinaire avec les sex toys, les lots, c'est déjà, bon, alors, on parlait tout à l'heure de leur esthétisme et de leur ergonomie, aussi le fait qu'ils soient rechargeables sur batterie et qu'ils fassent, ils font très peu de bruit. C'est quand même plutôt agréable d'avoir cette discrétion-là, que ce soit tout seul ou avec un partenaire. C'est ça qui est assez dingue. Tu n'as pas le gros bruit, tu sais, de la machine à laver là derrière qui casse un peu tout.
Oui.
Et puis après, il y a effectivement leur ergonomie. Alors voilà, je te parlerai des sextoys féminins, mais j'imagine aussi, et on en parlera un peu plus tard, des sextoys masculins qui sont très pensés, très réfléchis, très délicats. Enfin voilà, ils ont vraiment une signature de design très particulière. Donc comment ça, il arrive à garder justement cette ligne et ce fil conducteur à travers les modèles qui sortent depuis presque 20 ans?
En fait, c'est légèrement prétentieux, mais c'est la même idée. C'est que je vais comparer Philippe à quelqu'un comme Steve Jobs. C'est-à-dire qu'il a une idée, les autres vont la mettre en œuvre, mais par contre, il faut que ça corresponde à son idée exactement. On peut reporter les lancements. Enfin, j'ai eu plusieurs cas. On a eu le cas typiquement du F1, la première version, qui a mis presque un an et demi à sortir parce que on renvoyait à l'usine, on renvoyait sur les protos, etc. De la même manière que j'ai encore l'idée de Steve Jobs qui n'était pas satisfait sur l'iPod du toucher de la molette. Mais c'est à un autre degré, on n'est pas Apple, Philippe n'est pas Steve Jobs, mais en tout cas, s'il y a cette volonté-là, c'est que il faut que ça corresponde à ce qu'il a en tête. Et surtout, voilà, et surtout que le consommateur, au final, se dise, je le veux, c'est ce qui me correspond, et ça fonctionne comme je l'entends. Mmh.
Oui, il y a une rigueur et un souci du détail qu'il faut la perfection sur tous les produits. Et c'est vrai que ça se ressent, que ce soit dans, effectivement, on en parlait dans leur design, mais dans leur emballage, dans la communication, dans après même le SAV, et puis surtout sur la durée. Enfin, c'est des sextoys que tu peux garder longtemps, qui sont faciles d'entretien. C'est vrai qu'il y a vraiment tu achètes un objet techno, sexy, comme tu dis, mais t'as pas envie de lui faire prendre la poussière, quoi. Il a vraiment quelque chose il a une désirabilité, si on parle un peu marketing, qui est assez forte, effectivement. Ouais.
Oui, oui, tout à fait. C'est le but, clairement, c'est le but.
Toi, maintenant, qui a donc 6 ans chez Lelo, mais qui travaille dans l'industrie adulte depuis longtemps, est-ce que tu as pu constater, à titre perso et pro, les évolutions de la sexualité ces 10 dernières années?
Alors, de la sexualité. Oui, enfin, en tout cas des comportements,
ouais.
Des gens et des comportements des consommateurs.
C'est-à-dire ?
D'abord, il y a eu une libération de la parole. Mm-hmm. On en parlait avec ses amis, mais rarement à des inconnus qu'on croisait dans la rue ou dans une soirée auxquelles on n'avait jamais parlé. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait et que ça a complètement changé, Mais en tout cas, quand j'allais dans une soirée en 2004 et quand je vais à une soirée dans 2021, finalement, parler de sextoy, parler de sexe, parler de cul, etc., ben, c'est moins difficile.
Oui, tu sens quand même que les gens sont plus open et parlent plus facilement de leur sexualité ou celle du voisin, mais en tout cas, les mots, il y a moins de blocage avec les mots, quoi.
Oui, sans forcément se dévoiler, mais en tout cas en parler. On peut parler de plein de choses autour de la sexualité,
Ah bah
d'ailleurs pas
oui, c'est
forcément
pas
la
moi qui
sienne.
vais te dire le contraire.
Voilà, et donc effectivement, je vois cette évolution-là. La deuxième chose, c'est sur la partie, on va dire, purement notre marché, sur les sextoys. Clairement, on est passé du sextoy, tu utilises ton sextoy quand t'es tout seul, que t'as pas de mec, que t'as pas de copain, copine, etc., à c'est un objet, un accessoire. C'est passé d'un objet à un accessoire.
Ok, je comprends.
Et finalement, cet accessoire, on peut l'utiliser dans plein de cas. Et les gens commencent à se rendre compte, ça c'est plus récent par contre, que on peut l'utiliser à 2, à 3, à 5, au nombre qu'on veut, ça n'a pas d'importance, et au contraire, ça permet justement, comme de la lingerie, comme un bandeau sur les yeux,
Ça
c'est
apporte,
un
ouais,
accessoire
ça
comme un
apporte quelque
autre.
chose dans une
Voilà,
sexualité carrément.
exactement.
Ok. Donc un peu plus de libération et de et on va
De prise de conscience, finalement,
ok
voilà.
justement pour faire un focus et ça c'était important et c'était surtout sur ce sujet moi que j'avais envie de t'entendre parler c'est est-ce que tu peux nous parler de la gamme de sextoys masculins chez Lelo c'est vrai que j'ai eu sur plus d'une cinquantaine d'hommes qui ont parlé de leur sexualité à mon micro. J'en ai eu très peu. J'ai essayé de faire justement, la dernière fois, j'ai essayé de réfléchir. Je pense qu'on a un ou deux, tu vois, donc sur 50, c'est quand même pas lourd, qui ont parlé de sextoys masculins qu'ils utilisaient dans leur plaisir masturbatoire, alors plutôt en solo, pour le coup, pas tellement avec leur partenaire. Mais est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on a, on va dire, dans la pop culture, le rabbit un peu que c'était Sex and the City, cette série américaine qui avait un peu, on va dire, démocratisé le sextoys comme un truc clin d'œil entre copines. Et puis après, effectivement, des sextoys comme chez Lelo sont arrivés avec plus d'esthétisme, d'ergonomie. On est passé sur un truc un peu plus, on va dire, luxueux ou en tout cas prestige. Mais les sextoys masculins, ça reste quand même un peu tabou. En tout cas, on offre plus facilement à sa copine ré récemment séparée à un sextoys avec le clin d'œil un peu appuyé qu'à un pote qui est célibataire.
Oui. Alors pour les hommes, on est encore au Moyen Âge, hein, donc
D'accord.
c'est on sort de, on va bientôt rentrer dans l'esprit des Lumières, mais on n'y est pas encore.
Ok.
Donc pour les hommes, il faut déjà dire que les sextoys, enfin en tout cas la gamme ou comment dire l'étendue du type de sextoy est quand même plus restreint que pour les femmes.
Mais vous avez des trucs super. Je suis allée me vi visiter le site. C'est incroyable.
Alors, aujourd'hui, finalement, il y a trois grandes catégories pour les hommes. Depuis le F1, on est présent sur les trois. C'est tout ce qui est cockring,
Donc, est-ce que tu peux expliquer à chaque fois, ouais, s'il te plaît.
anopénien. Donc, ils se mettent généralement à la base soit de la verge, soit du périnée, qui peuvent être en métal, en plastique, qui peuvent être vibrants, non vibrants. Le but premier de l'anopénien, c'est de maintenir l'érection. Cependant, on a rajouté de la partie vibrante qui peut être dédiée à l'homme ou à sa partenaire en fonction de comment on l'utilise. Ensuite, il y a tout ce qui est massage prostatique, donc simulateur anneau. Alors cette partie-là, elle reste, on va dire, difficile d'accès parce que la plupart des hommes ont toujours un blocage avec
Bah,
l'anal.
bien sûr. Enfin, les hommes hétéros, surtout.
Oui, effectivement. C'est les hétéros qui ont un blocage. Mais
Ça
ça
se
se
décoince, ouais.
débloque, voilà, ça se décointe. Mais encore une fois,
Ouais,
c'est.
c'est petit à petit, mais c'est vrai que je le constate aussi à travers les épisodes. C'est vrai que la jeune génération, enfin, si je dois faire des grosses patates, mais entre 20 et on va dire 30 ans, les hommes commencent à être assez à l'aise avec ça et en parlent assez librement. Et c'est vrai que les générations 30 jusqu'à 40, 45, c'est un peu compliqué, voire carrément tabou. Et genre, ça, voilà, c'est genre un no way. Et on revient sur quelque chose d'un peu plus open vers les messieurs d'une cinquantaine d'années qui se disent bah pourquoi pas. Donc il y a vraiment, tu vois, trois... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, moi, je vois vraiment ces trois choses se dessiner.
Oui, tu remarqueras que la limite pour la partie, la troisième partie, c'est ceux qui généralement ont eu un toucher prostatique pour détecter un cancer, etc.
Et ils se disent, ah ok, finalement.
Ben oui, voilà. Quand ils sont obligés de passer par là, ils disent bon, finalement, c'était pas si mal que ça.
C'était pas, oui, je pense que t'as fait une montagne et puis c'est ok. Non, mais c'est ça, t'as raison, une cinquantaine d'années, c'est là, vers là où il faut faire effectivement vérifier sa prostate par un professionnel de la santé. Et du coup, oui, t'as raison, ça débloque peut-être quelque chose. Donc, oui, c'est ça.
Voilà. Donc, bah, alors, je pense pas que ce soit tout le monde, mais en tout cas, je pense que ça doit. Ouais, ça peut jouer.
Donc, tu as effectivement donc, les coquerines dont tu parlais, ensuite les.
Donc, la partie massage prostatique, et la troisième partie, c'est tout ce qui est masturbateur.
Ouais. Donc, c'est ça, hein, vous avez ça sur le site, j'ai regardé là, les vidéos, c'est incroyable en termes de technologie et de design. Tu peux le mettre sur une étagère, on dirait presque une œuvre d'art ou je sais pas, une enceinte un peu
oui, on m'a souvent dit, effectivement. On m'a souvent dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une enceinte? Il y a une marque, la JBL ou je sais pas quoi, qui fait des enceintes comme ça. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait souvent la remarque.
Alors, comment ça marche?
Mais c'est, encore une fois, c'est le but, hein. C'est le but que ce soit beau à regarder.
Ouais,
alors, il faut savoir que c'est un masturbateur, donc, vibrant. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas de tous les masturbateurs. On a des masturbateurs généralement qui essaient de reproduire l'intérieur d'un vagin, comme peut le faire Fleshlight ou Doug Johnson. En l'occurrence, là, ça n'a aucun rapport, il n'y a aucun réalisme, rien du tout. Ça n'est que du vibrant, donc il y a des moteurs qui entourent une gaine de silicone et qui permettent de stimuler différentes parties de la verge, du gland. Enfin, on peut d'ailleurs choisir, puisqu'il y a deux moteurs. Un qui est à la base, au milieu du manchon, et un qui est au bout.
Okay.
Et chacun est sur un amortisseur, donc pour éviter trop de
mais
bruit.
Mais si je ne m'abuse, ça marche avec une appli, c'est ça?
Et dans ce cadre-là, effectivement, le F1, la première version en tout cas, était notre premier sextoy télécommandé avec une application réelle. Technologie sur la version 2, on a appris. On a amélioré et aujourd'hui on est sur un produit qui est un peu plus mature, sur une application qui est plus mature, qui permet de tout commander depuis l'application. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut même finalement créer ses propres types de vibrations, de programmes, etc. Donc ça c'est des choses qu'on a appris par rapport à la version V1 et on a finalement un peu concentré toutes les technologies qu'on avait de disponibles chez Lelo. La seule que l'on n'a pas pu mettre et qu'on ne mettra jamais, c'est la partie Wave, parce qu'il faudrait quelque chose qui bouge, et en l'occurrence ça marche pas, enfin pas là, mais tout le reste finalement est concentré dans le F1, que ce soit le Cruise, les Sonic Waves, etc. Tout est le Sound Sonic, tout est concentré là-dedans.
Ah ouais, enfin, en tout cas, on sent la prouesse technologique derrière, parce que ce soit effectivement, on en parlait dans le design, mais dans le ressenti, bon, ça je ne sais pas, mais ça a l'air assez dingue. Donc, ça, ça c'est les trois types qu'il y a dans les sextoys masculins. C'est lequel qui marche le mieux chez Lelo, le best-seller en sextoys masculins?
Alors, pendant longtemps, ça a été le masseur prostatique, c'était le Hugo.
Ah oui, il est assez connu, ouais, celui-ci.
Voilà, qui était un masseur prostatique télécommandé, mais avec une télécommande propriétaire, pas avec une télécommande application. Mais effectivement, depuis qu'on... Alors, le F1, la V1, se vendait correctement, mais n'était pas un best-seller. La V2, en revanche, on a un palier. On est passé sur un autre niveau, donc on est clairement là sur du best-seller, peut-être pas autant que ce qu'on pourrait vendre avec les sextoys féminins, mais en tout cas dans les masculins, c'est clairement lui qui se met en avant.
Et tu sais à peu près quel est ton type de consommateur sur ce sextoys là?
En Europe, on est sur du 25-35 ans homme en couple.
D'accord. Donc c'est un cadeau qu'une compagne peut faire à son, ou un compagnon peut faire à son partenaire, ou que le mec se fait lui-même, quoi.
Oui, clairement, là, aujourd'hui, je pense que c'est la partie application qui incite le jeu à plusieurs, le jeu à deux.
Je comprends. Super, super intéressant. Quels sont les freins, toi, que les lourds rencontrent, justement, sur les sujets de sextoys masculins? Parce que je me posais la question, et on en parlait un petit peu avec Amandine quand on avait pris contact. C'est intéressant de voir comment vous arrivez à justement... passer un peu au-dessus en proposant des produits très design, très techno, avec quelque chose d'assez décomplexé tout en restant plutôt discret. Qu'est-ce que toi, tu arrives à voir en tant que manager sur la France, les freins que vous rencontrez sur les sextoys masculins et sur leur appropriation des consommateurs?
Alors, comme je te disais, on sort à peine du Moyen-Âge parce que finalement, je me rends compte que pour les hommes, autant ça commence à rentrer qu'une femme peut utiliser un sextoy avec son compagnon, peut utiliser un sextoy déjà, et ensuite peut l'utiliser seule ou avec son compagnon, ou sa compagne d'ailleurs. Par contre, pour les hommes, c'est extrêmement difficile de sortir du « c'est pour moi tout seul » et si j'ai un sextoy, c'est que c'est la misère sexuelle.
Oui, c'est ça. Il y a toujours ce truc de performance chez les mecs et de peur de... Ouais, je comprends.
Ouais, là, on n'est pas encore complètement libéré. Je parle même pas de l'utilisation même. Je parle vraiment de faire la démarche, d'envisager d'utiliser un sextoy.
Bah après, je te rejoins là-dessus. Enfin, là, pareil, si je brosse un peu les 50 garçons et hommes qui ont parlé à ce micro... C'est vrai que dans leur démarche, même dans les moments les plus compliqués de leur sexualité, où c'était soit des remises en question, soit des obstacles de vie qui peuvent arriver, j'ai pas le souvenir qu'un m'ait parlé justement d'un sextoys pour se satisfaire ou pour explorer une nouvelle piste ou des choses comme ça. On sent que c'est même pas, comme tu dis, c'est un frein, mais c'est qu'ils y pensent même pas, en fait. Il n'y a même pas la pédagogie autour de ça.
Exactement. Ça apparaît encore, pour le moment, comme une défaite.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
De copine, ou j'ai pas de copain, ou j'ai pas de rien. J'ai peut-être regardé sexe.
Ouais, ouais, t'as raison. Mais c'est intéressant de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années.
Bah, j'espère que ça va suivre un peu la courbe, ou en tout cas les comportements qu'on peut retrouver côté féminin et couple. Mm-hmm. Parce que le comportement de l'homme célibataire est complètement différent de l'homme en couple. C'est vraiment pas la même façon d'aborder les choses, la même façon de parler du sexe. Et finalement, on parlait tout à l'heure des masseurs prostatiques. Il y a une césure. Il y a ceux qui, c'est définitivement non, surtout si je suis en couple.
Okay.
Et ceux qui sont... Ah, c'est possible, justement parce que je suis en couple.
Ok, intéressant. Hyper intéressant. Et est-ce que tu as un peu de visibilité sur les pays d'Europe?
Alors, bizarrement, les problématiques sont les mêmes partout en Europe.
Ah ouais, hyper intéressant.
À chaque fois que je faisais une réunion avec les autres managers en Europe, que ce soit l'Italie, l'Angleterre, la partie germanophone, nordique, même pays de l'Est, la seule grosse différence qu'on remarque, c'est les pays catholiques.
Oui.
Sur lesquels la pénétration du marché est plus faible. Mais c'est pas non plus un truc complètement fou. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'Italie était plutôt en dessous du reste de l'Europe, mais aujourd'hui, ils consomment autant que les autres. La Pologne a été un peu plus freinée sur tout ce qui est préservatif, mais aujourd'hui, ils sont à 80% du reste, enfin, en jauge, 80% de ce que fait le reste de l'Europe. Sur l'utilisation des sextoys, sur la façon dont on vend les sextoys, moi, je me suis toujours dit que l'Allemagne, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, les Pays-Bas étaient tellement plus libéré, c'était tellement plus facile de vendre des sextoys. Et en fait, quand je discute avec les managers du Royaume-Uni, enfin Royaume-Uni-Irlande ou germanophone, eux pensent l'inverse, c'est-à-dire que ça doit être tellement plus facile de faire ça en France. Et en fait, on se rend compte que on a tous les mêmes problématiques, que c'est pas si facile que ça, que les gens qu'on pense libérer ne le sont pas tant que ça.
C'est vrai que c'est ce que tu dis, moi j'aurais tendance un peu facilement à me dire que les pays de l'Est, justement l'Allemagne, les pays nordiques, j'ai l'impression en tout cas que les rapports hommes-femmes sont plus libérés, sont plus simples, mais pas forcément. Donc c'est marrant, ouais, effectivement, on a des idées préconçues.
Pas forcément.
Intéressant. Ça doit être vachement, pour toi, ça doit être qui aime et l'industrie, mais aussi le secteur et ces sujets-là, ça doit être passionnant de voir les évolutions, les comportements, qui se transmettent et qui se traduisent dans les actes d'achat. Ça doit être assez enrichissant de vivre ça quotidiennement. Alors, pour toi, un petit conseil pour les auditeurs et auditrices, ce serait quoi le meilleur sextoy pour débutants chez Lelo?
Alors, pour débuter, pour un homme.
Pour un homme et pourquoi pas une femme, parce que j'ai pas mal d'auditrices aussi. En tout cas, une personne à vulve et vagin, on va dire, pour essayer d'être englobé tout le monde.
Oui, effectivement. Que ce soit cis ou trans, ce sera pareil, parce que je pense qu'aujourd'hui, les plus simples d'accès restent les stimulateurs clitoridiens.
Okay.
Parce qu'il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les puissances. Mmh. Et parce que, mine de rien, d'ailleurs, d'abord, c'est plus accessible, et ensuite, c'est plus facile de jouer avec son partenaire.
Oui, c'est vrai.
Tout ce qui est stimulation vaginale, ça peut être très intense, très drôle, etc. Mais déjà, il faut se connaître, il faut connaître un petit peu plus son corps, il faut que son partenaire aussi se connaisse un peu mieux le corps des femmes et le corps de sa partenaire. Donc je préconise plutôt les stimulateurs clitoriens.
Il y a une référence à donner, un nom?
Chez Lelo, ça va être le sauna. Voilà, donc c'est facile d'accès. Ça fonctionne très bien.
Valeur sûre, quoi.
Voilà, c'est une valeur sûre. C'est...
Ok, et quand on possède un pénis?
Alors là, on revient au même principe de tout à l'heure, où c'est assez difficile d'accès pour le... Enfin, pas difficile d'accès. Difficile de sauter le pas pour les hommes. Mmh. Moi, je préconise deux choses. Soit on n'y connaît rien, mais on n'est pas complètement fermé. C'est d'essayer, par exemple chez Lelo, c'est le Billy. Mmh. C'est un stimulateur anal qui est, j'allais dire, unisexe. C'est-à-dire que ça peut fonctionner pour les femmes, pour les hommes. Et finalement, il est suffisamment petit pour que ça passe partout et suffisamment grand pour que ça stimule la prostate.
Okay.
Donc finalement, on peut même se dire, je l'offre pour ma copine, mais je pourrais peut-être l'utiliser moi aussi.
C'est ça, c'est genre, il y a des gens qui partagent des fringues, et puis tu peux partager ton sextoy, quoi.
Le Billy. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Donc le Billy, ça, c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui sont complètement réfractaires au stimulateur prostatique, ou qui se disent, je vais pas prendre un masturbateur, parce que sinon, ça veut dire que je suis tombé tellement bas que... voilà. Commencer par tout ce qui est cock ring. Mm-hmm. Chez nous, c'est le Thor 2 qui est vibrant. Voilà. Il en existe de tous les types, de toutes les formes, etc. Et ça peut être une première étape. Déjà, pour se rendre compte que c'est pas si mal que ça d'utiliser des sextoys masculins.
Ok, super. Trop bien. Et donc, ma dernière question, Quentin. Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil pour une sexualité épanouie?
Ah, d'être curieux.
J'adore
ça. Il faut être curieux. Finalement, c'est comme tout dans la vie. C'est que si tu pars avec des idées préconçues, avec des barrières déjà à l'entrée, tu n'iras pas loin. Bon. Tu peux avoir des barrières, mais tu peux te dire, oh, je peux toujours regarder ce qui se passe derrière. Je ne suis pas obligé d'y aller, je ne suis pas obligé de le faire, mais au moins regarder.
Ouais.
Au moins s'intéresser.
Donc être curieux.
Et c'est généralement parce qu'on s'intéresse qu'on va trouver des informations, des solutions, des pratiques, etc. Et qu'on va forcément trouver quelque chose qui va nous convenir ou qu'on aura envie d'essayer.
Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ces réponses et toutes ces informations hyper intéressantes sur les lots. Je te laisse conclure par un petit mot de la fin. Généralement, mes invités concluent leurs entretiens par un petit mot de la fin qui s'adresse aux auditeurs et auditrices. Donc là, tu parles effectivement de curiosité, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
De vivre en fait comme ils en ont envie. Parce que, outre la curiosité, ça c'est une démarche active, dans une démarche plus passive, c'est de faire comme ils ont envie. De pas se laisser déborder par le reste du monde. Et plutôt se concentrer sur ce que eux ont envie, elles ont envie. Et on sera tellement plus heureux au moins sur la sexualité. Ça sera déjà pas mal.
Bah, merci infiniment, Quentin, pour toutes ces informations, c'était hyper intéressant. Et on va dire longue vie à l'élo. Et on espère vraiment, vraiment que les hommes vont un peu se décoincer sur le sujet.
Ça va venir, ça va venir.
je n'en doute pas. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci infiniment pour votre écoute et merci évidemment à Quentin mais aussi à Amandine pour cette mise en relation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il vous reste encore un épisode des bonus estivaux de cet été. Ce sera avec Jamal qui est escorte et acteur gay. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.